Bonjour à toutes, bonjour à tous, installez-vous confortablement dans votre siège, les pubs viennent de se terminer, les lumières s'éteignent, la séance de la troisième rangée va commencer. Au programme de cette seconde moitié de décembre, nous allons revenir sur les films qui nous ont marqués en ce moment en salle. Grand retour sur le tout petit grand film de la semaine, c'est A Ghost Story de David Lowery, une discrète, peut-être un peu trop, réflexion sur le temps, la mort et le deuil. On retournera en enfance avec Jumanji où Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan tenteront de faire oublier Robin Williams. On se paiera une bonne tranche de mélodrame optimiste avec Wonder, gentil film de fin d'année. On ira explorer la Floride, pas pour Disney World, mais pour le motel crasseux qui est juste à côté, dans le bien nommé The Florida Project. On fera enfin un tout petit tour par Netflix et son blockbuster Bright avec Will Smith. On jugera du film quasi surprise de Ridley Scott, Tout l'argent du monde, et on s'intéressera à la reconstitution historique, politico-romantico-royale de L'échange des princesses. On se détendra enfin autour d'un malin petit quiz, Laurent nous testera sur nos cultures en réalisatrice. Pour m'accompagner sur tous ces sujets, j'aurai le plaisir d'avoir en ma compagnie Maxime, bonsoir.
Salut Robin, salut à tous.
Nam, bonsoir.
Bonsoir.
Florian, bonsoir.
Bonsoir.
Laurent.
Salut tout le monde.
Et Quentin.
Bonsoir.
Quant à moi, comme Maxime l'a dit, si vous avez bien écouté, il y a un petit indice, c'est Robin. Est-ce que vous allez bien en cette fin d'année ?
Oui.
Les cadeaux de Noël furent-ils bons ?
Ils furent gouléants.
Gouléants.
Les dîners furent presque parfaits.
Nickel.
Je suis repu.
Parfait. Bon, chers amis, avant de nous plonger dans les sorties de la semaine, je vous propose de revoir les racines du hip-hop avec un documentaire, pas n'importe lequel, c'est Steel Wars. Steel Wars donc nous a été proposé par Laurent lors du coup de projo de la dernière émission. C'est un documentaire sur la culture hip-hop, sur un petit peu le graffiti, sur la danse. Évidemment, ça inclut beaucoup de choses, la culture hip-hop. Ça a été réalisé par Tony Silver avec Henry Chalfant. Pourquoi ce choix, Laurent ?
Alors, déjà parce que c'est un film qui m'a plutôt marqué quand je l'ai vu. Et en fait, je l'ai vu à un moment où je m'intéressais beaucoup aux origines de la culture hip-hop, et du coup des fins des années 70, début 80, de la période new-yorkaise, etc. Et en fait, ce film m'a appris beaucoup de choses sur comment le moment a été vécu par ses contemporains. Et du coup, j'ai appris beaucoup de choses d'un point de vue purement, on va dire, historique ou culturel, ou pour ma culture générale sur le sujet. Mais après, au-delà de ça, je trouve que le film a quand même des qualités qui font que c'est un bon documentaire, enfin une bonne œuvre. Et je trouve qu'il n'y a pas seulement donc des qualités d'un point de vue informationnel, on va dire, mais vraiment des qualités qui sont inhérentes à ce film-là. Alors après, ça reste quelque chose de très brouillon et qui est fait avec peu de moyens et qui explore pas mal de choses. Mais je trouve la façon dont il utilise la véritable histoire, enfin ce qui s'est vraiment passé comme sujet, comme narration pour le film, je trouve que c'est pas mal fait. Et notamment, moi, ça me fait penser à, très rapidement, enfin, ça m'a fait penser à King of Kong. Je sais pas si vous voyez le documentaire sur les jeux vidéo.
Oui.
Et qui, au début, souhaitait parler d'un sujet. Et au fur et à mesure que le documentaire était tourné, en fait, il y avait une évolution, en fait, de la façon dont il était filmé.
Ça fait partie de ces espèces de documentaires qui se laissent guider un petit peu, qui s'engagent dans une rivière et puis qui se laissent porter.
Et là, typiquement, ça me fait penser un peu à ça, notamment du fait qu'au début, le sujet, c'est... donc le sujet principal du film, ça reste quand même des graffeurs qui graffent sur des trains à New York, et une institution, donc la police, l'organisation qui s'occupe des transports, qui essaye de limiter les dégradations sur leur matériel. Et du coup, dès le début, il y a une opposition, et je pense que les réalisateurs savaient pas vraiment où ça allait terminer, donc ils étaient un peu obligés de suivre ce flow et de suivre cette histoire qui évoluait.
Est-ce qu'il y a des gens autour de cette table, pour se présenter un petit peu, on ne nous connaît pas forcément, qui ne sont pas friands, comme Laurent a pu l'être, de hip-hop au départ, et qui ont découvert ce documentaire par un autre prisme ? Quentin, peut-être.
Alors moi, le truc c'est quoi ? Donc je suis pas trop dans la culture hip-hop et tout ça, je m'étais déjà renseigné, j'avais déjà regardé quelques documentaires, c'était plus des reportages, des trucs comme ça dessus, enfin, j'ai pas mal d'amis qui sont dans le truc, donc ils m'ont pas mal expliqué. Après moi le documentaire, on va dire que je l'ai pas vraiment apprécié, parce qu'en fait je trouve qu'il a un problème que d'autres documentaires ont, c'est qu'en fait il m'a un peu laissé à la porte. Moi j'ai pas, je trouvais que c'était vraiment, ça parlait aux initiés pour voir les origines de tout ce mouvement là, mais c'est vrai que quand on n'est pas dans ce mouvement là et qu'on connaît pas déjà, qu'on n'a pas déjà des fondamentaux, c'est un peu compliqué d'y rentrer, quoi.
C'est vrai que c'est un film qui est assez peu didactique, où on est plongé tout de suite à fond dans le rythme, dans les gens, dans la culture, dans la contre-culture aussi, on y reviendra. Et ouais, ça prend directement, quoi. Le train part tout de suite.
C'est pas un film rétrospectif, c'est tellement fait dans l'instant, parce que je crois que tu l'as dit, Laurent,
entre 80 et 83, ouais, c'était tourné.
Et du coup, il y a quand même assez peu de recul sur le sujet, et le but, c'est clairement pas d'en prendre. Donc effectivement, on est au cœur du sujet et je peux comprendre cet aspect de distance que ça peut te poser. Moi, c'est un film qui m'a justement plu par cet aspect-là, et parce que ça vient... En fait, c'est presque un film qui est dans le mouvement hip-hop de par sa manière, de la manière dont il a été fait. C'est-à-dire,
et puis son auteur aussi, quoi.
Et par son auteur et par la manière dont il a été fait, c'est-à-dire très direct et clairement dans l'instant.
Et d'ailleurs, ça se voit dans le film. Il y a des moments où ils vont, la caméra va suivre les graphes dans les trains, etc. Même parfois dans les gares la nuit. Et clairement, la personne qui est en train de filmer et certainement le réalisateur, ils sont autant en illégalité que les graffeurs qui suivent pour ces passages-là. Et dans le film, on voit aussi qu'il y a une période qu'on est en pleine période de transition aussi. Avec cette séquence qui se déroule dans une galerie d'art où on a les premiers graphes exposés en toile, et donc ça, c'est déjà en train de préparer le terrain pour les Basquiat qui vont arriver derrière ou ce genre de personnes.
C'est assez marrant d'ailleurs parce que cette partie-là, elle est en écho complète à des choses qu'on voit aujourd'hui. Il y a un documentaire qui est sorti sur Netflix sur Banksy. C'est exactement ces mêmes problématiques là avec la même peur de c'est en train de disparaître, c'est en train de mourir. La preuve que non, ça fait 25 ans que le documentaire est sorti. C'est juste peut-être que avant de définir le graffiti même. Avant de et ça augmente dans pas longtemps. Avant de penser le graffiti comme pour ou contre, légal, pas légal, dans la cité, hors la cité, la définition, c'est peut-être justement c'est un art en zone grise, quoi, un peu en flou, en toujours en question.
C'est l'effet de mode aussi. C'est que dans le sens du film, et surtout à ce moment-là, on voit une vraie démocratisation du mouvement et surtout une appropriation du mouvement par des gens qui en sont tout à fait extérieurs. C'est que les gens qu'on voit et les gens qui se plaignent des graffitis sur les trains vont être peut-être les premiers à aller les acheter sur des toiles. C'est qu'au final... c'est juste l'effet de mode, c'est que tu l'as vu, tu vois que ça évolue et tu vois que finalement c'est peut-être pas que quelque chose d'illégal, et dans ce cas tu dis tiens ça m'intéresse et puis pourquoi j'en ferais pas. Et
tout le processus d'acceptation de l'art d'un ou d'un
et c'est pareil, on a l'interview d'une dame au moment où on est dans cette galerie d'art où elle te dit moi je suis créative, je suis une artiste et du coup moi aussi je fais ça. Alors qu'au final les gens qu'on voit et qui gravent sur les trains c'est pas du tout ce type de personne.
C'est vrai que ça, pour le coup, c'est un truc dont moi j'avais déjà entendu parler avant même de voir le documentaire. C'est justement de la part de graffeurs qui parlaient de la place du graphe dans les galeries d'art, genre de choses. Et il y en a énormément qui pensent que ça n'a absolument rien à faire dans les galeries d'art. Et en fait, moi, je sais pas du coup si c'est ce film-là. Est-ce que ce film-là, il a instauré des trucs? Est-ce qu'il a, est-ce qu'il a amené une façon de penser le graffiti
Moi, ce que je sais, c'est que surtout, il a pu mettre en avant un monde que même les gens qui étaient dans le mouvement hip-hop connaissaient pas forcément si les gens n'étaient pas new-yorkais, en fait. Ce que ça a permis de faire, c'est qu'il y a plein de gens qui vivaient notamment sur la côte ouest par exemple et qui pouvaient être très loin de ce qui était vécu par les gens à New York, qui a permis de leur faire découvrir qu'est-ce que c'était le monde du graffiti à New York. Parce qu'en fait, plus que social, je pense que ça montre un point géographique, une particularité géographique d'un endroit, d'un lieu, et qui n'était pas du tout le cas dans le reste de la culture hip-hop. Et je pense que le film, il a servi à ça, il a servi du coup à des gens qui étaient plus ou moins dans la culture à l'époque, de prendre conscience de vraiment de quoi elle pouvait, comment elle pouvait être, sous quelle forme elle existait à certains endroits. Et, ce film a servi à ça, en fait, le moment même, c'est qu'il a permis à des gens qui étaient dans le début du hip-hop, qui se considéraient comme étant du mouvement hip-hop, pour leur faire prendre conscience de ce que c'était vraiment. Et du coup, ça a permis de générer pas mal de vocations ici, quoi. Il y a cet objet-là.
Pour revenir un peu plus précisément sur le film, moi ce qui m'intéressait pas mal aussi, c'est la force que, on le voit rien que dans les discussions qu'on a là, c'est la force qu'il a à raconter des histoires avec du réel, en fait. Et je trouve que ça, c'est une des forces du documentaire en tant que tel, mais de celui-là en particulier, c'est-à-dire qu'il arrive à aller saisir des histoires, et il y a notamment celle avec le méchant dont je pense que tu voulais parler quand tu évoquais King of Kong tout à l'heure.
Oui, c'est ça, entre autres. Ouais. Mais justement, moi je trouve qu'en fait, il va presque pas assez loin là-dedans, et parce qu'il y a plein de mini-narrations, de mini-sujets qui pourraient en découler, qui à chaque fois sont un peu sabrés parce que le film dure qu'une heure. Et notamment, en fait, moi, c'est vrai que rétrospectivement, quand je repense au film, j'ai l'impression que cette histoire avec ce graffeur qui est un peu contre tous les autres graffeurs et qui décide de graffer sur tous les autres graffitis et d'aller faire voir tous les autres. Et ben en fait c'est pas vraiment, c'est plus du tout le sujet principal.
Oui,
et
on
en
a
fait,
l'impression que c'est le cœur du film.
Et en fait quand tu regardes le film c'est pas du tout le sujet, c'est juste un truc annexe. Et je trouve ça presque dommage qu'il explore pas à fond comme King of Kong avait pu le faire avec le méchant qui du coup devenait le sujet, qui vraiment du coup le documentaire s'emparait de son sujet quoi.
Mais après ça c'est peut-être aussi le problème d'avoir fait un documentaire sur ce milieu là où en fait en donnant la parole aussi aux intervenants aux différents graffeurs, on se rend compte aussi très rapidement que tous, en fait, ils le font avant tout pour eux et pas pour les autres. S'il y a d'autres personnes qui les remarquent, et, en général, c'est d'autres graffeurs, donc c'est leur père. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que tous, ils vont avoir leur définition de ce qu'est censé être le graff et la manière dont ils ont envie d'avancer dans leur... j'ai envie de dire dans leur art, parce qu'au final, c'est ça. Et il y a un côté aussi qui est assez intéressant... Voilà, ça fait refaire le parallèle que ce qu'on disait tout à l'heure avec la galerie d'art, c'est que la plupart des gens qui font ça, ils pensent pas du tout à gagner des sous. C'est juste pour eux, et en fait c'est un peu un des seuls moyens d'expression qu'ils ont à leur disposition, et le film leur donne l'occasion de parler aussi.
C'est une vraie célébrité anonyme, pardon, c'est ce que je voulais rajouter.
Et justement, peut-être pour finir là-dessus, c'est qu'en fait, à la base, le film, d'ailleurs, c'était un film qu'il voulait faire sur les breakdancers, en fait. C'était un film qui voulait être fait sur le groupe qu'on voit rarement dans le film, qui est le Rocksteady Crew. Et en fait, à la base, le film devait être sur eux, et sauf qu'ils se sont rendus compte au fur et à mesure du film que déjà ce groupe qui commençait à avoir du succès n'avait pas le temps de participer au documentaire, et qu'à l'inverse, ils avaient tout un autre pan de la culture hip-hop qui était moins connu et qui était intéressant à découvrir. Et du coup, je pense que ça prouve un peu la sincérité du traitement du sujet et de la façon dont ils s'en emparent. Après, moi, je trouve peut-être dommage qu'il va peut-être pas assez loin là-dedans. Mais en tout cas, ça montre, je pense, que les bonnes intentions et la volonté qu'il y avait derrière. Quoi.
Et moi, ce que je trouve intéressant aussi pour finir, c'est que j'ai un peu l'impression que c'est ce film-là et d'autres de la même époque qu'ont lancé, par exemple, la veine des Spike Lee et des trucs comme ça, où il y a commencé à avoir une réflexion du cinéma par rapport au mouvement hip-hop. C'est-à-dire que le cinéma a aussi commencé à s'emparer encore plus de la rue, c'était déjà un peu dans cette mouvance-là dans les années 70, mais le fait qu'il y ait une libéralisation technique du matériel qui s'allège et des trucs comme ça, il y a un truc qui a fait que on a réfléchi le film et le cinéma de manière générale comme on a réfléchi la musique et comme on a réfléchi
après dans les années 70, c'était peut-être pas fait par les gens du mouvement, et typiquement le Blaxploitation c'est totalement ça quoi.
Oui, c'est pas carrément c'est pas encore qui... ça, mais ça ouvre les portes. Je pense que ça, ce genre de film a ouvert les portes à Spike Lee
par le ton, par les personnages, ouais, par aussi une face qui était dépeinte toujours par le prisme des producteurs, des blancs, etc.
Et même géographiquement il y a dû avoir un espèce de fourmi qui a créé, enfin des gens qui se sont rencontrés et qui se sont dit que voilà, des choses pouvaient se faire autrement.
Steel Wars, donc un documentaire qu'on vous conseille chaudement. Finalement il n'y a pas eu de grands de grands contre-indications. C'est disponible sur YouTube notamment, il me semble pas, pour avoir essayé de fouiller, qu'il y ait des sous-titres français qui existent. En tout cas,
si vous tapez Steel Wars VOSTFR, en fait, il faut juste aller dans les options et rajouter les sous-titres, mais ça marche.
Il me semble que ça a dû être fait par un fan ou quelque chose, parce qu'il me semble pas que
les sous-titres sont pas incrustés dedans,
oui,
passer par le lecteur YouTube.
Bon, y a toujours moyen de bidouiller quand on est curieux. On va passer aux sorties de la semaine. On commence les sorties de la semaine avec une des sorties les plus importantes, en tout cas peut-être les plus anticipées, c'est A Ghost Story de David Lory. Il est sorti il y a quelques temps aux États-Unis, il n'arrive que maintenant chez nous, c'est distribué par A24, je le répète parce que c'est un excellent producteur-distributeur à l'international. C'est avec Rooney Mara et Casey Affleck quasi exclusivement. C'est à propos d'un couple donc qui n'a pas vraiment de nom entre Rooney Mara et Casey Affleck. Il va se passer quelque chose de terrible dans ce couple et un fantôme va venir hanter le jour, la nuit, la maison de Rooney Mara. C'est un film très contemplatif, c'est un film qui va faire couler, qui a fait déjà couler beaucoup d'encre, qui va sûrement en faire couler pas mal ici, en tout cas par la parole. On va essayer de cracher de l'encre tous ensemble. On va commencer par Quentin. A Ghost Story, est-ce que c'est un film que tu attendais autant que beaucoup de gens l'attendaient ?
Alors moi j'ai entendu parler de Ghost Story qu'au final très récemment, j'étais pas au courant qu'il était sorti avant aux États-Unis et tout ça, donc j'en attendais pas grand chose hormis le fait qu'en général en décembre on n'a pas des super films à part des gros blockbusters, et je me suis dit, j'ai vu des images de ce film là, je me suis dit ah bah tiens, pourquoi pas quoi, et globalement j'ai été très agréablement surpris.
Alors David Lowery, il a repris exactement le même couple, à savoir Rooney Mara et Casey Affleck, je le répète, par rapport au film de 2013 qu'il avait fait, Les Amants du Texas, donc c'est pas nouveau pour lui. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus... C'était déjà intimiste, ça l'est encore plus. Le format est un petit peu bizarre, on est sur un format carré, avec des petits arrondis, on a l'impression d'être... Alors, certains ont parlé avec une pointe de dérision, je pense, de films instagramesques. Est-ce qu'on ne peut réduire Ghost Story qu'à son aspect visuel, Florian?
Bah déjà, en fait, moi, ça m'a vraiment perturbé, et surtout, j'avais l'impression en fait, de voir une photo. Ce format un peu 4 tiers mais avec les bords un peu arrondis, ça, on aurait dit vraiment une espèce de photo sur pellicule ou
on dirait une vieille photo un peu,
voilà c'est ça. Et je trouve que ça nous met vraiment déjà dans l'ambiance du film en disant on va être spectateur vraiment de ce qui se passe et on va assister vraiment à ça.
Et le côté spectateur est retrouvé d'ailleurs dans la narration, puisque autant on est spectateur du film, autant le fantôme, qui est un véritable fantôme, si jamais vous n'avez pas vu d'affiche du tout, c'est la représentation en fait qu'avait David Lowery au moment d'écrire le script. Il s'est dit, moi je, quand j'imagine un fantôme, j'imagine un mec avec un drap sur la tête et puis deux pochettes noires collées pour faire les yeux. C'est exactement comme ça qu'il va apparaître. Il y a finalement assez peu de fantastique pour l'aspect fantastique central de ce film. C'est un film qui est forcément lent, qui est porté sur la nostalgie, et autant ça a pu effectivement être une super révélation pour tous ceux qui ont aimé, autant Laurent, tu fais partie de ceux qui ont trouvé ça absolument long.
Oui, c'était long, mais pas tant que ça en fait. C'est parce que je comprends l'intérêt du film, je comprends les intentions, et après c'est juste que moi perso, la façon dont l'objet est traité, la façon dont les plans sont traités, les sujets, ça me touche pas. Et enfin, pour moi, ça manque de sentiments. Déjà, le personnage du coup qui est le fantôme, qui est quand même le personnage principal et qui est censé faire passer des sentiments. Alors certes, c'est Casey Affleck, donc on sait que ça va être limité. Mais du fait qu'il soit sous un drap, il y a vraiment, enfin, ça devient quand même très difficile de faire passer quelque chose. Et même si du coup, c'est souvent dans les mouvements de tête, parce que du coup, on voit sa tête qui bouge quand même, et la façon dont il se porte, la façon dont il se tourne, c'est vrai que du coup, le jeu est très orienté autour de sa posture finalement, parce que c'est la seule chose qu'il peut véritablement exprimer. Et ben moi j'avais du mal à ressentir de vrais sentiments de compassion pour les personnages, ou pour ce fantôme, ou pour les autres qui du coup ne le voient pas. Du coup il n'y a pas d'interaction non plus entre les personnages, enfin très peu, parce que du coup les personnages respectifs ne se voient pas. Du coup c'est vachement sur l'absence de je sais pas comment vraiment dire, l'absence de relation, en fait, c'est l'absence de relation entre les personnages.
Mais je l'ai pas vu comme une absence de sentiment, en fait, de la part de Casey Affleck, mais plus comme le fait qu'il n'arrivait pas à communiquer ses sentiments. Et notamment, quand il fait écouter la chanson à sa compagne...
C'est un musicien dans le film.
Voilà, donc c'est un musicien, il fait écouter sa composition à sa femme, et en fait, moi, la chanson, je l'ai vécu comme... finalement son expérience et ses sentiments, et lui dit voilà, je n'arrive pas à te les dire par la parole, donc je vais te les faire découvrir par la musique en fait. Et je vois pas ça comme une absence de sentiments, mais comme une incapacité à exprimer ses sentiments.
Bien sûr, ça c'est une incapacité de la part des personnages, mais après moi du coup je perçois pas du coup cette nouvelle manière de se faire ressentir, bah moi ça m'a pas touché. Je comprends très bien que lui il y arrive pas, ça y a pas de soucis.
C'est un film qui est complexe parce que il est parfait équilibre entre le rien et le tout. C'est un film qui est vraiment, qui peut se définir, j'ai souvent lu, c'est un film de presque rien, c'est un petit film qui fait des petites choses. Alors ça veut pas dire pas petit dans le sens négatif du terme, c'est vraiment, c'est un grain de sable qui bouge, ça joue beaucoup là-dessus, et soit on voit ce grain de sable et tout tourne autour de lui, soit on voit la pièce entière et finalement le grain de sable devient un petit peu invisible. Alors malheureusement on n'a pas ce soir avec nous pour cette émission Florent, qui a absolument adoré le film et qui l'aurait sûrement porté au nu. On va faire avec ce qu'on a, et nous ce qu'on a, j'ai l'impression autour de cette table, mis à part Laurent effectivement qui a un avis, voilà, ça l'a pas touché, on a tous été touchés je pense entre Quentin, Florian et moi-même, on a tous trouvé des petites choses à redire à chaque fois. J'ai l'impression que Ghost Story pour nous trois, pour des raisons différentes, c'était un engrenage qui était presque parfait, mais qui taquait, bizarrement.
Ouais, en fait, moi, je trouve que le film... en fait, pour le simple fait qu'il va à l'encontre, en fait, de ce qui se fait, on va dire, en ce moment, à savoir que c'est des plans très longs, que souvent ça traîne un peu. Enfin, c'est des choses comme ça. Moi, j'aime bien ce côté, on prend le temps, il y a très peu de mouvements.
Après, ça reste joli, hein, même moi qui n'ai pas forcément apprécié, je trouve que ça reste très beau. Hein.
Oh ouais, moi, alors, pour le coup, moi, j'ai eu la chance de voir ce film avec quelqu'un qui fait de l'histoire de la photo. Et en fait, qui dès les 5 premières minutes du film, m'a expliqué en fait de quoi ça allait parler. En fait, c'est pas un format Instagram, c'est un format Polaroid. C'est en fait le côté souvenir, le côté vieille photo, en fait, il est intentionnel, puisque c'est un film qui ne parle que de la photographie américaine de la deuxième moitié du XXe siècle. En fait, c'est des maisons vides, des arbres, et au fur et à mesure, les arbres disparaissent, et il y a de plus en plus des immeubles. Et en fait, le film, c'est ça. C'est bon, elle m'a expliqué ce truc-là, et c'est devenu limpide. Et d'ailleurs, pour ceux qui parlent de la longueur et ce genre de choses, il y a un travelling au début du film sur la maison. Et... notamment, alors on parle aussi de ce fameux plan de tarte, mais on pourra y revenir plus tard, mais le travelling sur la maison, je me suis dit, bon, ok, ils vont pousser le plan jusqu'au moment où la fille rentre dans la maison, et puis là, ça va couper. Et en fait, non. Elle rentre dans la maison, il se passe bien 15 secondes sur la maison, et on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, moi, c'est à la fin du film que j'ai compris que le film, à mon avis, parle pas de Casey Affleck, enfin, on parle pas de ce couple-là, il parle de la maison. Parce que la maison, c'est le dénominateur commun de tout le film. Et il y a un vrai moment de déchirure, notamment, c'est le moment où la maison disparaît, je ne dis pas comment, mais voilà.
Alors c'est assez drôle parce que, pour moi, c'est un film qui ne traite absolument pas de la civilisation ni de quoi que ce soit extérieur au couple.
D'accord.
Donc exactement l'inverse de ce que tu viens de dire. Pour moi, le film est un film anti-nostalgique, donc complètement à revers de ce qu'il pourrait laisser penser, ouais. Puisque justement, j'ai eu l'impression d'être, on verra, je vous laisse être le juge, aller voir le film, j'avais l'impression d'être le fantôme pendant tout le film, à savoir, j'ai eu l'impression de passer à travers le film, complètement. J'étais complètement à côté, j'en avais un sale a priori, j'avais du mal avec ce qu'il voulait dire, ce qu'il montrait, de manière permanente, et les 10 dernières minutes m'ont complètement retourné. C'est pas un twist, hein, c'est pas un vieux twist à la Thriller, etc., c'est pas du tout ça. Mais il y a une clé de compréhension qui se tourne. Et j'ai parlé au tout début d'intervention d'un espèce de rouage qui craque, un rouage qui est un petit peu à côté, et d'un coup, il s'est mis dedans. D'un coup, il s'est mis dedans, et j'ai revu tout le film, comme le fantôme revoit tout un tas de choses, et ça fait sens. Et le fait que ça fasse sens, est-ce qu'un film, on l'aime, on le trouve bon parce qu'on l'a compris? Je pense pas, on peut tout à fait trouver excellent des films qu'on a pas forcément acquis. Pour moi, ça a fonctionné et j'ai eu du mal à voir tous ces éléments de civilisation, tous ces éléments de culture. Pour moi, c'est un film qui se trompe et qui fait exprès de se tromper.
Alors j'avais quelqu'un avec moi qui du coup est spécialiste de la photo, donc c'est vrai qu'elle m'a pas mal orienté sur ce truc-là, mais je trouve que moi, il y a un des points forts du film, c'est la gestion du temps. Le temps qui passe, c'est il y a des plans hyper ingénieux. C'est-à-dire que le fantôme va tourner la tête et on sait pas combien de temps il s'est passé. À aucun moment on sait à quelle époque on est. Et des fois on devine.
Il n'y a pas de titre avec marqué 1986.
Voilà, il y a rien de tout ça. Il y a un côté statique, il y a un truc qui bouge pas pendant tout le film en fait, et c'est le fantôme. Quoi.
Mais t'as deux choses, c'est que t'arrêtes des plans qui sont très longs, très lents et dans lesquels il se passe rien. Et t'as des ellipses qui sont hallucinantes, où tu passes vraiment de choses totalement différentes. Et je trouve que le film arrive bien à jouer là-dessus. Et surtout, en fait, durant toutes ces périodes où il se passe rien, je trouve que le film invite à la réflexion. Et pendant tout le film, il y a énormément de moments où j'ai commencé à me poser des questions sur le film, sur l'interprétation et même sur la technique. Et je me disais, mais attends, mais là, il y a des incohérences, il y a des trucs qui sont pas possibles, et je me pose des questions. Et au final, à chaque fois, je me suis posé une question. Dans les 10 minutes qui suivaient, j'ai eu ma réponse.
Je me suis dit, ok.
Et c'est bon, ça me va.
C'est ça qui est bien avec les films.
J'ai eu ma réponse.
Avec les films supposément vides, c'est que du coup,
ils
invitent à la réflexion.
Je sais pas si c'est fait exprès ou pas.
Pour un film vide, moi je trouve qu'il donne énormément de clés de lecture sur tout un tas de choses. T'as le droit de.
Supposément vide, quoi.
Voilà. T'as le droit de les prendre ou pas, t'as le droit de les interpréter comme tu veux. Et je pense pas. Ce que j'ai bien aimé finalement sur Ghost Story, c'est pas tant de faire des théories sur qu'est-ce qui est quoi. C'est pas un film à twist, c'est pas un film à énigme, c'est pas un film de raison. J'ai bien aimé le fait que chacun puisse se l'approprier avec le risque d'en mettre tellement avec si peu de choses qui deviennent totalement hermétiques et qu'on se retrouve dans la situation de Laurent. Le film Ghost Story, je pense, prend ce risque d'être hermétique et de ne pas vouloir souffrir. Pourquoi pas? c'est un risque qui est pris, et je pense on est tous à valoriser deux choses dans le cinéma ici, c'est une certaine dose de risque et une certaine dose d'honnêteté.
Ouais.
Je pense qu'il y a un peu des deux dans Ghost Story.
Ouais, il y a des maladresses, il y a deux trois choses.
On peut peut-être finir là-dessus sur les petites maladresses que tu as remarquées.
Après, c'est toujours la même chose, c'est qu'est-ce que moi j'apporte dans le film, qu'est-ce que moi je vois dans le film qu'il n'y a peut-être pas, c'est ça aussi le souci de faire des films en général épurés. En fait, je trouve qu'il y a un truc bizarre, notamment il se passe un truc avec... En fait, les premières personnes qui viennent dans la maison après que Runemara soit parti sont des Mexicains. Et le fantôme veut les mettre dehors à tout prix. Donc il leur fait peur, il les persécute jusqu'à ce qu'ils s'enfuient.
Ouais, c'est même violent.
C'est même violent. Et en fait, je me dis, bon, peut-être que c'est qu'une coïncidence. Bon, ok, c'est l'Amérique. Le film est sorti il y a 2 ans, je crois, aux États-Unis. Donc, bon, on va dire que Trump n'était pas encore là. Bon, je me dis, bon. Coïncidence. Et puis après, un peu plus loin dans le film, on voit d'autres personnes qui se font assassiner par une minorité. Et là, on se dit, mais je sais pas. Moi, je me suis dit, peut-être une fois, ok, deux fois, c'est bizarre. Peut-être que c'est juste mon interprétation. Mais bon, c'était suffisamment bizarre pour être signalé, je pense.
Bon. A Ghost Story, en tout cas, qui n'est pas un film parfait, qui n'est pas, en tout cas, de notre point de vue, qui a tout un tas de failles, de petites choses qu'il y a peut-être à revoir, mais qui reste quand même parmi les sorties de fin d'année, notamment si vous voulez éviter la pléthore de blockbusters. On en a parlé l'émission dernière avec Star Wars, avec le Crime de l'Orient Express, avec tous ces films-là. Même voilà, Santa et compagnie, qui finalement est un blockbuster en son genre. Ici, si vous cherchez votre petite pépite indé, il y aura, si vous voulez conspuer contre les films gauchias, bobo, ça sera aussi pour vous, ce sera un petit moment sympathique à trouver que c'est chiant. Finalement, il y en a un petit peu pour tout le monde, et c'est pas plus mal. On change, mais alors complètement de registre, avec Jumanji, Bienvenue dans la jungle, rien qu'au titre, hein, on passe Ghost Story, Bienvenue dans la jungle. Jake Kasdan qui réalise avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et l'excellente Karen Gillian. Nam, tu es allé le voir, et tout le monde dit, figure-toi, que... Alors, un reboot de Jumanji, comme ça, on dirait pas que c'est la meilleure idée du monde. Ça l'est sûrement pas, on le dit tout de suite, ça l'est sûrement pas. Mais les gens ont l'air de dire que c'est pas si mal. Est-ce que c'est pas si mal ?
Eh ben, je sais pas qui sont les gens qui disent ça, mais on n'a pas vu le même film.
Très bien. Qu'as-tu vu, alors ?
Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est un remake narratif de Jumanji, donc avec un personnage qui disparaît au début, et 20 ans après, d'autres personnes qui continuent la partie, et du coup, ils doivent s'entraider pour continuer. Les seules différences, c'est que Jumanji n'est plus un jeu de plateau, mais devient un jeu vidéo, parce que comme le dit le personnage au début, en 96, plus personne ne joue au jeu de plateau, au jeu de société. Tout le monde tourne la table, on pourra dire que non, mais voilà, c'est un autre débat.
On est en train de jouer au jeu de société en même temps, là.
Ouais, voilà, là vous le savez pas, mais
voilà, c'est un voilà.
J'ai raté mon doux pour sortir de la prison. Et donc, du coup, on a un jeu vidéo. Et derrière, les ressorts du jeu vidéo qu'ils auraient pu utiliser auraient pu être multi, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire dans un jeu vidéo. Là, si en effet c'est un jeu vidéo, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont juste repris, ils ont fait un open world avec des niveaux posés les uns à côté des autres. Ce qui est un peu bizarre, parce qu'en fait, dès qu'ils ont atteint un objectif, ils auraient pu, blackout et tu changes le niveau. Ils le font pas, c'est dommage. Des PNJ qui répètent les mêmes trucs en boucle, donc c'est rigolo. Non, en fait, c'est pas du tout rigolo, c'est très vite chiant. Même pour eux, c'est chiant.
Ça sniffe la mauvaise idée tout de suite.
Et la dernière mauvaise idée, alors, je peux comprendre, voilà, c'est l'utilisation. Enfin, c'est que les personnes qui jouent, surtout dans des personnages, ils ont donc des forces et des faiblesses qui sont pas les leurs à la base. Et ils ont 3 vies. Ce qui fait que, que très rapidement, les personnages vont passer leur temps qu'à se plaindre de leur personnage ou être contents de leur personnage. Parce qu'il y en a qui sont clairement plus craqués que d'autres. C'est-à-dire que quand tu meurs en explosant parce que t'as mangé un gâteau, c'est pas terrible. Et que tes points forts, c'est le fait que t'as un sac à dos et que dans sac à dos, t'as du matériel. Mais qu'à part ça, tu sais pas courir et que tu sais pas te battre. Voilà, t'as un personnage qui passe son temps à se plaindre, et oui, il passe son temps à se plaindre. C'est Kevin Hart.
C'est super sympa, les personnages qui passent son temps
c'est
à se plaindre.
Trop chiant.
Ah, puis Kevin Hart, c'est pas le mec qui est bavard.
Le problème aussi, du coup, du principe des 3 vies, c'est que y a plus de danger. Parce que à partir du moment où ils ont annoncé qu'il y a 3 vies, moi au début du film, je fais ok, bon, tous les héros là, ils vont en perdre 2, puis à la fin du film, c'est bon, il en restera une. Et c'est exactement ce qui se passe. L'humour est bof, et visuellement, il n'y a pas grand chose qui te fasse penser à un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une idée qui est marrante où il lance un boomerang, et il s'en sert plus jamais d'ailleurs. Il lance un boomerang, il rate totalement, il commence à s'enfuir, et puis le boomerang revient et les ennemis explosent au contact du boomerang. Ça, je veux bien. C'est un truc qu'on a déjà vu dans les jeux vidéo 2D, 8 bits, machin. Ok. Mais bah je sais pas, derrière faut continuer à s'en servir. Bon voilà, vous parlez du sac à dos, moi je me suis dit bah il y a un mec qui a un sac à dos avec plein de trucs dedans, il va avoir une scène où il va prendre des trucs au pif, les passer aux gens et ils vont s'en servir. Non, ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais. À part ça, t'as la meuf, en gros l'Hermione Granger, qui découvre que c'est qu'en fait c'est une bonasse qui s'ignore. Voilà.
D'accord. Ah oui, elle se détache les cheveux, elle enlève ses lunettes. Oh, mais
en fait, elle se retrouve dans le corps du bonasse. Et t'as une scène super, j'ai envie de dire limite malsaine, où t'as Jack Black qui apprend à une fille à comment draguer. Mais en fait, Jack Black c'est une fille à l'intérieur. C'est nul.
J'ai l'impression que c'est une suite de fausses bonnes idées et même pas exploitées jusqu'au bout.
Bah c'est un peu ça, ouais. Alors moi j'y suis allé voir parce que bah il y a Jack Black et The Rock, et j'aime bien Jack Black et The Rock. Je me suis dit les deux ensemble, souvent ils font des trucs drôles, alors pourquoi pas. Et là non.
Est-ce qu'il y a juste une cohérence par rapport à Jumanji, ou ça aurait pu être n'importe quoi et on l'a juste appelé Jumanji?
Alors je trouvais que déjà il y avait trop de gens humains dans Jumanji pour que ce soit Jumanji. Je sais pas, bah, dans le premier film Jumanji, le seul autre humain hormis Paris qu'on voit c'est le chasseur. Pourquoi pas. Là, il y a quand même vraiment une ville de PNJ avec un putain de gros marché. Genre, on voit très peu de scènes, mais il y a au moins 2000 personnes dedans, tu vois.
D'accord. Il faut y aller avec un amiibo dans le film ou...
je pense que pour des gens... dans la salle, je vais pas vous mentir, à part des personnes, devaient avoir 15-16 ans, et je pense que c'est pour ce public-là. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est un film dont on se rappellera dans... Allez, 20 ans, parce que c'est le temps sur lequel ça s'écoule. Non, clairement, je pense que tout le monde l'aura oublié d'ici là.
Allez, stop, c'est bon, on a assez fait pour le Jumanji.
J'ai plus de vie.
Prochain film, c'est Wonder. Là encore, on change complètement de...
Du coq à l'âne.
Exactement, du coq à l'âne. On passe à un film qui est réalisé par Stephen Jbowski. C'est pas facile à dire, figure-toi. Avec Julia Roberts, Owen Wilson et Jacob Tremblay. C'est le petit que vous avez forcément vu au moins dans Room. C'est un film de Noël, mais qui se passe pas vraiment à Noël. Qu'est-ce qui se passe? Wonder, c'est un petit, donc Jacob Tremblay, qui est atteint d'une malformation du visage. En gros, il est très très moche. Et il rentre en CE1. C'est un petit Elephant Man. Il rentre en CE1, il a jamais été à l'école. Il était
un éléphanto, quoi.
Voilà. Il a été à l'école avec sa maman, qui s'appelle Julia Roberts. C'est bizarre comme nom, mais on comprend. Et du coup, il va apprendre que les petits, c'est pas comme les adultes. Il se moque un petit peu de lui. Mais au bout d'un moment, ça va mieux aller, tout le monde va se comprendre et tout le monde est dans la joie et la bonne humeur. C'est un film feel good à partir d'une histoire qui est adaptée d'un bouquin. Je ne doute pas du fait que...
histoire vraie ou pas, tu sais histoire... pas.
Non, je sais pas, je pense. Je ne crois pas. Je ne doute pas qu'il y ait énormément d'empathie pour les papas et les mamans et peut-être les enfants aussi qui ont eu des...
Voilà, qui sont moches.
Qui sont moches, non mais qui ont eu des déformités,
disons-le,
etc.
Des handicaps.
Des handicaps.
Qu'on est physique de radio, quoi, comme nous, quelque part.
Pourquoi vous croyez qu'on fait y a pas de webcam, pas de YouTube? On est les seuls à pas faire du YouTube game ici. Bon, bah, c'est peut-être qu'on ressemble un petit peu à Jacob Tremblay dans Wonder. Il y a tout un tas de bons sentiments. Est-ce que les bons sentiments, ça fait une belle histoire? Très certainement. Est-ce que les bons sentiments, ça fait forcément un bon film? Très certainement que non. Il y a un aspect téléfilm de Noël, pas dans la réalisation, je parle pas du tout d'aspect technique, mais dans l'aspect de la narration.
Oui, putain, les thèmes quand même.
Voilà, tout est facile, tout va bien. Et ouais. En plus, ce qui n'aide pas, il y a aucun autre fond. On sent que le réalisateur a voulu vraiment... alors, j'ai pas lu le livre original, mais en tout cas, le film se débarrasse complètement de tout poids, qu'il soit social, qu'il soit... sociétal, etc. Dans le sens où c'est un gamin qui est dans une famille de blancs plutôt même carrément riches, parce que pour avoir une baraque comme ça dans New York, ça se passe à New York, et genre ils sont friqués sa race dans une école privée et tout. Ce qui fait que t'as encore moins d'empathie. Owen Wilson, il fait le papa un peu rigolo. Julia Roberts, ça fait la maman un peu angoissée, mais qui au final, elle craque un peu, mais ça va mieux. Il a une sœur. On fait pas assez attention à elle, du coup elle fait un peu des conneries, mais vu qu'elle est, quand même blanche et bien éduquée, elle fait pas trop de conneries, c'est tout. Elle fait du théâtre. Hein.
C'est ça la connerie.
Autant dire que c'est vraiment pas un film qui se regarde au cinéma, peut-être en VOD, dans un dimanche où tout va mal, où il pleut, vous avez perdu votre emploi, rien ne va peut-être. Mais Wonder, ça fait clairement pas un bon film, et il y a un manque clair de cinéma, et j'ai presque envie de dire, si l'histoire n'était pas aussi belle et aussi empathique, il y a quand même un petit manque de d'honnêteté. Ouais. À propos de ce film, c'est le réalisateur du Monde de Charlie, qui était déjà un film assez sirupeux, et je pense, si jamais vous hésitez encore un petit peu, regardez ne serait-ce que la bande-annonce, ouais. Je vous aurais vu à peu près l'ensemble de ce que vous voulez voir. Si vous voulez le revoir en version plus longue au cinéma, faites donc. Il y a A Ghost Story, ça marche absolument pas en ce moment au ciné. Allez-y plus tôt. Quitte à être déçu, quitte à être surpris, vous le serez forcément un peu plus que ça.
Alors moi, ça m'a fait penser, je tiens à préciser que j'ai pas vu le film, hein, mais toute l'histoire m'a fait penser au film de Coppola, qui est pas très connu, qui s'appelle Jack, avec Robin Williams, qui joue dedans et qui joue un enfant qui vieillit 4 fois plus vite. Donc, quand il a 10 ans, il a le corps de quelqu'un qui a 40 ans. Yes. Et j'ai l'impression que l'histoire est à peu près la même, sauf qu'il est pas moche, il est juste vieux. Enfin, bref, ben, regardez ça, c'est peut-être mieux apparemment.
Ouais, ouais. Non, mais c'est un film qui incite au raccourci Wonder. Il y a vraiment pas grand chose à en garder. Je sais pas vraiment pourquoi je l'ai vu d'ailleurs. Pour commencer, nouveau changement complet. Vous avez l'habitude, hein, tourbillon à foison. On passe de Wonder, New York, riche, tout ça mignon. Floride, on descend un peu plus dans le sud. The Florida Project, un film de Sean Baker. Avec pas forcément des acteurs que vous connaissez, à part Willem Dafoe évidemment, sans quoi il y a la petite Brooklyn Kimberly Prince qui joue une peu. Vous allez vite comprendre. La star du film qui est une enfant. Et Bria Vinate Alley qui est, il me semble, une modèle ou une meuf d'Instagram, il me semble, une influenceuse. C'est le terme.
Officiel.
The Florida Project, de quoi ça parle?
En fait, ça raconte un peu la vie d'un motel qui est situé en périphérie de Disney World en Floride. Et du coup, ça raconte la vie qui se passe dans ce motel. Et c'est un motel qui est essentiellement habité par des résidents permanents, en fait. Par des gens très pauvres qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une maison ou de trouver même une vraie location. Et qui, du coup, vivent dans des chambres de motel et qui, du coup, sont vraiment ancrés dans le motel comme des habitants, et ça parle du coup des relations entre les différents habitants et entre les habitants et le propriétaire qui est du coup Willem Dafoe et qui essaye de gérer ce motel qui est du coup un peu crade parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Donc les thèmes, ça reste l'Amérique très profonde, un peu de racisme, du tatouage à foison, des insultes, des problèmes, de la pauvreté, voilà, enfin la misère tout simplement.
Et on se concentre sur deux figures particulières au sein de ce motel. Donc Hayley, qui est une mère complètement perdue. C'est un peu comme si la personnage principale d'American Honey avait une gosse en fait, et était perdue en Floride. Et Moni, qui est sa fille. Et qui voit tout ça sous le prisme d'un enfant, à savoir sous le prisme finalement d'un jeu.
C'est ça. Alors après, qu'est-ce que ça en fait? Ça, c'est ça le problème, parce que le sujet en soi, c'est plutôt intéressant. La façon dont il est traité, ces matériaux-là, c'est plutôt bien filmé, c'est plutôt joli.
Très coloré, très acidulé, ça fait très bonbon. Ouais.
Ça commence par une musique de Cool and the Gang sur un mur violet avec les titres des acteurs qui passent en gros caractères. C'est vrai que ça donne la pêche. Après, ouais, voilà, l'utilisation, qu'est-ce que ça en fait vraiment de tout ce matériel là, de tout cet univers? Pas grand chose en fait, parce qu'il n'y a pas véritablement de narration. Ça fait un peu, ouais, encore une fois, des sortes de tranches de vie où on voit les personnages évoluer, aller à droite, aller à gauche, mais il n'y a pas vraiment d'objectif. Et on se perd un peu, on est presque déçu du fait qu'il en fasse pas quelque chose de mieux.
Ouais, mais enfin, c'est vrai qu'il pense. Sean Baker dans film des gens qui ont rien à faire et se dit, du coup, je les suis complètement et je leur donne rien à faire. En soi, il est super honnête dans son propos. C'est quelque chose que j'avais. C'est un deuxième comparatif que je vais faire, que j'avais reproché personnellement au American Honey d'André Arnold, à essayer de forcer une action, forcer une situation, forcer le drame. Ici, rien n'est forcé. Laurent, je pense que tu seras d'accord, il y a une approche qui est vraiment sincère sur ce film.
Oui, sur le sujet, notamment, ouais, sur le parce sujet, que du coup, ouais. Ça traite quand même un sujet de la pauvreté et c'est sûr qu'il le fait avec de très bonnes intentions. Mais après, encore une fois, c'est dommage, il n'y a pas véritablement de choix vraiment scénaristiques qui sont pris pour nous orienter, pour orienter les personnages vers une dimension, que ce soit bonne ou mauvaise, que ce soit soit pour sombrer par exemple ou pour aller vers un côté plus lumineux. Il n'y a pas véritable, ça reste, en fait ça stagne, les personnages n'évoluent pas vraiment.
J'avais eu un peu la même impression sur le film Tangerine, son film précédent de Sean Baker, qui était centré sur le suivi d'un travesti, Et t'avais un peu cette impression-là aussi que les personnages étaient pas... on cherche pas forcément à faire évoluer les personnages dans l'écriture. Et j'ai l'impression que dans les films de Sean Baker, il y a toujours une espèce de gimmick de... par exemple, Tangerine, le gimmick, c'était c'est filmé à l'iPhone. Là l'idée, c'est Willem Dafoe à contre-emploi et la Floride. J'ai l'impression que c'est un réalisateur qui peut créer des situations comme ça de... intéressante, mais qui va avoir du mal à les étoffer. En
fait. Il peint très bien ses tableaux, il peint très bien ses espaces, ses situations, et il choisit de mettre des personnages qui sont dans l'inaction. Par exemple, le personnage de la mère, Ellie, c'est un personnage qui est antipathique de A à Z et qui reste, comme tu disais, Laurent, tout à fait, hein, qui reste dans une espèce de rythme de croisière où elle devient de plus en plus antipathique parce qu'elle devient de plus en plus perdue, parce qu'elle devient de plus en plus pauvre.
Aussi parce qu'on la découvre, mais en soi, elle ne bouge pas vraiment, en fait. Oui, elle change pas, c'est juste nous qui la découvrons au fur et à mesure, et du coup, on se rend compte véritablement de l'arrière du décor, mais dans le fond, elle ne bouge pas, en fait. Même, c'est pareil pour la petite, elle ne bouge presque pas.
Et c'est ça qui est terrible.
Alors après, il y a quand même des fois des fulgurances, parce que c'est toujours, ça fait toujours un peu marrer de voir une petite de 10 ans qui rote et qui pète et qui dit des insultes à des grands.
Pour moi, c'est vraiment ce qui donne le cachet, on va dire. Ce qui donne le cachet de Florida Project, c'est vraiment le fait de suivre cette gamine qui, de par l'absence de sa mère, parce que la plupart du temps, elle est on ne sait où, elle fait je ne sais quoi, ou elle n'a pas vraiment de contrôle sur son gamin, souvent... Le Florida Project, donc Sean Baker, décide de suivre Mooney comme son personnage principal, et d'un coup, ce motel qui finalement est vraiment... L'espace est pas plus grand que le motel, le parking est un espèce de bois aux alentours, et d'un coup, parce que tu le vois par le prisme d'une gamine de 6 ans, il devient immense, en fait, et tu vois des choses par sa vision... C'est filmé évidemment très bas, dès qu'il y a un personnage, on le voit en contre-plongée. Et ça donne une autre dimension, il y a deux dimensions dans ce film sur un même espace. Et pour le coup, j'ai trouvé ça très très fort.
Et puis du fait qu'il soit pauvre aussi, il marche beaucoup. Et le fait qu'il marche, ça montre que les États-Unis et la périphérie américaine, c'est très grand. Et du coup, ça met encore plus en avant leur marginalisation.
Et ça, c'était un truc que j'avais vachement aimé aussi dans Tangerine, où justement Los Angeles était montré pour une fois d'un point de vue piéton.
Là, c'est pareil, en fait, ça montre une banlieue de... Enfin, même, c'est même plus qu'une banlieue, je sais pas.
On dirait que c'est perdu en train d'échanger autoroutier.
C'est un peu toute l'histoire de l'urbanisation américaine, et là, c'est vraiment vu d'un point de vue du piéton et de gens qui poussent des caddies au bord de la route, et donc forcément, ça montre à quel point c'est moche et c'est pas...
Oui, puis c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en plus.
On n'a pas trop l'habitude de voir. Et pour revenir sur une réflexion géographique du film... C'est qu'il y a quelques temps, j'avais lu quelque chose qui m'avait appris que lorsque Disney avait fait le premier parc en Californie, ils avaient juste acheté la parcelle pour seulement faire le parc. Du coup, ils avaient seulement acheté 34 hectares. Et ils s'étaient rendu compte, au fur et à mesure du fonctionnement du parc, qu'il y avait plein de motels et plein d'attractions qui s'installaient tout autour et qui un peu avaient une sorte de mauvaise image sur le parc et sur son fonctionnement. Du coup, quand ils avaient imaginé le projet en Floride, ils se sont dit « cette fois-ci, on va pas acheter seulement le terrain pour le parc, on va pas acheter seulement 34 hectares, on va acheter 12 000 hectares. On va faire 12 000 hectares où il y aura une sorte de végétation qui fera un peu tampon entre le vrai monde et le monde enchanté de Disney avec les parcs, les attractions, etc. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, je pensais que le film allait parler de ce sujet-là, du fait que ce motel, il est installé en périphérie du parc et du coup, il y a des relations entre les deux mondes. Et en fait, le film le fait une seule fois.
Ouais.
Et c'est rigolo parce que ce moment-là est plutôt intéressant, je trouve. Et c'est peut-être sûrement un des meilleurs moments du film. Mm-hmm. Mais il va pas assez loin. Et il aurait peut-être pu jouer avec cette idée de périphérie de Disney, du lien avec le parc. Et chose que justement les créateurs du parc avaient voulu totalement éviter. Mm-hmm. Éviter qu'il y ait ces sortes de gêne par des nuisances de parc ou d'entreprises qui cherchent à profiter de l'implantation du parc. Et typiquement, le parc en France répond totalement à ces idées-là, parce que du coup, Disney a eu la main libre sur un espace énorme pour faire totalement ce qu'il voulait, pour éviter toute nuisance. Quoi.
C'est Sean Baker, il a montré, je pense, qu'il sait extrêmement bien dépeindre des individus. J'attends finalement de lui, on va le suivre avec attention parce que ça reste un réalisateur qui tente des choses, qui, encore une fois, est honnête envers son cinéma, etc. J'attends qu'il mette ces individus dans un contexte, n'importe lequel, qu'il soit historique, qu'il soit social, etc. Un peu comme ce que pourrait faire par exemple Barry Jenkins, qui vient d'ailleurs il a fait Florida University, enfin il a fait ses études de ciné en Floride. Donc voilà, c'est un peu ce que Moonlight fait dans le social. Baker le fait à l'échelle de l'individu. C'est bien, je pense, ça peut suffire à lui-même. Hein. C'est juste qu'on va chercher, on est un peu taquin, ouais. Donc on va chercher des choses. Mais c'est une autre approche. Exactement, une petite rencontre entre les deux, un petit feed, ça serait super. Les blockbusters, c'est pas qu'au cinéma, c'est aussi sur Netflix. C'est avec Bright, un film de David Ayer, avec Will Smith et Joel Edgerton. C'est de l'action, c'est fantastique, c'est du thriller, donc finalement, c'est, tu secoues un petit peu, c'est un blockbuster. Ça a énormément d'argent, et est-ce que ça marche? Est-ce que c'est peut-être la sortie blockbuster à faire de ce décembre? C'est à la maison.
Alors, pour moi, ça marche pas du tout.
D'accord.
Pour beaucoup de raisons, et je vais commencer par présenter un peu, exactement. Un petit peu ce qui se passe. Donc en fait, c'est un cop movie avec Will Smith et son compagnon, donc un humain et un orque, puisque le film se passe dans un monde contemporain où il y a des créatures fantastiques, à savoir des orques, des elfes, des petites fées. Donc c'est Will Smith, donc le Will Smith, hein, qui joue Will Smith, qui a pour teammate le premier orque de la police. Donc évidemment, ça ne pouvait être que Will Smith. Et voilà, et du coup le film part de là. Will Smith se fait tirer dessus par un orque, hein, manque de peau, puisque les orques, c'est les méchants du film, c'est les pauvres, donc c'est des méchants. Voilà, parce que c'est des orques.
David Ayer, dans
c'est quand même dur de trouver des acteurs mexicains, donc autant
c'est
trouver des orques, c'est quand même plus simple.
Il avait
bien un latino.
Ah, d'accord.
Il avait été raciste déjà, David Ayer.
Non, un latino tout court.
Sur le même sujet, il avait déjà été raciste sur End of Watch. Donc, Bright, est-ce que ce n'est que raciste?
Mais c'est quand
alors,
même
c'est
très maladroit.
Ouais, voilà.
Surtout très raciste. Ouais. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de cohérence en fait, et l'univers n'est pas du tout expliqué. C'est que tu pars sur un univers qui a l'air sympa sur le papier, où je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, et au final, ce qu'ils en ont fait, c'est soit raté, soit pas expliqué. Déjà, il y a un truc qui pour moi est quand même très dommage, c'est que chaque race est cantonnée dans son petit quartier. C'est que t'as les orques dans le Bronx, là où c'est les mecs qui sont pauvres, et ils soulèvent des voitures dans la rue, et ils jouent au basket, et ils ont des capuches, et...
C'est-à-dire qu'ils sont noirs.
Est-ce que c'était vraiment nécessaire de les grimer autrement?
Attends. C'est clair. Faut quand même préciser que quand on voit des orques à l'écran et qu'ils nous les présentent, voilà, quand ils vivent dans la street et tout, la musique qu'on entend, donc extra-dégétique, c'est du rap. Mais dans le film, les orques écoutent du métal.
Ah,
pourquoi? Pourquoi dans ce cas tu nous mets du rap quand on les voit, mais alors qu'en fait ils écoutent du métal? Je mets du métal directement.
Parce que l'inconscient collectif.
Parce que l'inconscient collectif nous dit que voilà, c'est des gangsters de la street, donc oui, ils écoutent du rap, alors que non.
Donc, je suppose que c'est une espèce de satire sociale, en tout cas c'est ce qu'ils ont pensé en faisant, et ça ne fait qu'utiliser des clichés pour les renforcer.
Super maladroit.
C'est même pire que ça, c'est que je pense que c'est juste... C'est un film de flics comme t'en as des millions tous les ans aux États-Unis, et t'as un petit malin qui nous a fait hey les gars, venez, on met des elfes et des orques et genre des fées, et c'est trop bien.
Et Netflix, on fait, oh, on achète.
et surtout, pire que ça, c'est que Netflix, ils ont fait, on achète et on met 90 millions, mon gars.
C'est vrai que c'est important de mettre le budget là-dessus.
Et du coup, on peut dire que les 90 millions, c'est pas trop où ils les ont mis, et qu'en fait, s'ils ont sorti le film en VOD, ça va être parce que bah, déjà sur ton écran, il y a des effets, tu les vois et tu fais, bah, c'est moche, les gars. Genre, vous avez pas genre 2 millions à mettre en plus dedans pour que ce soit un peu plus joli. Donc, au cinéma, ça doit être horrible, mais bon, bah, c'est dommage.
Toute petite parenthèse, moi j'ai pas vu le film, mais en fait, je suis abonné personnellement sur Instagram sur des maquilleurs professionnels. Et en fait, apparemment, il y a un souci de production, puisqu'il y a une centaine quasiment de maquilleurs et de personnes qui ont fait des effets spéciaux pratiques qui n'ont pas été crédités.
Ils ont été oubliés,
entre guillemets. D'accord. Et apparemment, ça soulève un souci sur comment Netflix produit ses films, etc.
Netflix devient le nouveau kebab pour blanchir de l'argent.
Je veux juste faire un petit point sur la critique, puisque donc Bright s'est fait descendre à la critique, par les critiques justement, et a un retour plutôt positif, ce qui semblerait, des gens.
Spectateurs.
Pas moi. et en fait, je pense qu'au-delà de la critique envers le film, surtout ce qui est critiqué, bah, c'est le mode de fonctionnement de Netflix. C'est que je pense que le film est critiqué, mais c'est surtout le Netflix qui est critiqué, et c'est surtout l'industrie du cinéma, en fait, qui critique Netflix en disant « Les mecs, vous commencez à empiéter sur nos plates-bandes, et on n'est pas trop d'accord. »
Ouais,
c'est que Netflix fait un blockbuster avec un budget énorme qui sort directement chez toi dans ton salon et qui passe pas par la case cinéma. Et justement, il y a beaucoup de critiques qui mettent vraiment dans le titre ou même dans le contenu, n'allez pas voir ce film et ne regardez pas ce film. Et je pense que c'est surtout une incitation en fait à, au-delà d'un mauvais film, à surtout en fait boycotter plus l'œuvre et le, et, le, et, le, et ce qu'il y a derrière plutôt que le film en lui-même.
Bon, c'est bien tombé parce que c'était un film de merde visible. Juste petit point positif. Comme pour Suicide Squad, l'introduction est bien. Voilà. Les 10 premières minutes sont bien, et puis après, bon, bah, on découvre qu'être humain, c'est pourri. Mais par contre, c'est clair que ce film est fait pour être l'introduction à un nouvel univers, une nouvelle licence. Parce qu'on parle de prophétie, ouais. De trucs. Si la prophétie, c'était ce qu'on a vu dans le film, est-ce que ça valait la peine de faire une prophétie? On est au début du machin, je pense. Voilà.
Affaire à ne pas suivre, pour le coup.
Est-ce qu'il y aura une suite? On sait pas. Hein.
Une petite question pour ouvrir le prochain film. Est-ce qu'il va s'arrêter un jour? Ridley Scott, à son âge avancé, sort deux gros films cette année. Le premier étant bien évidemment Alien Covenant. Le second, c'est Tout l'argent du monde. Un film dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, pas forcément pour sa nature en lui-même, mais parce que il est le centre de cette fameuse affaire. Au départ, il y avait Kevin Spacey dans un des rôles principaux, qui a été effacé suite au scandale que vous connaissez tous par Christopher Plummer. C'est donc un Ridley Scott qui tend vers... qui tend vers quoi d'ailleurs, Maxime?
Qui tend vers la facilité presque, j'ai envie de dire. Pour moi, ça fait 10 ans que j'ai l'impression d'avoir perdu Ridley Scott dans une espèce de mise en scène assez conformiste et classique. Pour revenir vite fait sur l'histoire du film, on parle là de l'histoire vraie, semble-t-il, comme c'est la mode en ce moment, d'un riche financier qui n'accepte pas de payer la rançon du kidnapping de son petit-fils. Il est dans le business et il aime négocier, et du coup c'est pas parce que un petit gang de malfrats italiens a kidnappé son petit-fils qu'il va absolument payer la rançon de 17 millions de dollars, alors qu'évidemment il est milliardaire et qu'il pourrait. Partent d'ici donc les péripéties du film. Se poser des questions de est-ce qu'ils doivent payer 10 millions de dollars ou 17 millions pour la vie de quelqu'un, ça me fascine pas. D'autant que le début du film est assez mal rythmé par des allers-retours géographiques, temporels, où, justement, à l'inverse de A Ghost Story, on est assommé de panneaux qui nous disent où on est, dans quelle location, à quelle époque. C'est très informatif du coup, et finalement le film perd déjà le spectateur d'ici là.
Chez les défenseurs de Scott, il y a quelque chose qui revient souvent comme thème principal de ces films, peut-être avec une parenthèse sur Seul sur Mars. C'est un côté très cynique, très pessimiste envers l'humanité. Je suppose qu'il est repris dans ce film là.
Ouais, il y a carrément ça, puisque le personnage de ce financier-là, il est clairement prêt à tout abandonner, à tout sacrifier pour l'argent. Il a eu une seule passion qui est celle pour les objets d'art, et une de ses phrases dans le film, c'est « Je préfère les objets aux humains parce que eux, les objets ne changent pas à travers l'histoire ». Et voilà, c'est clairement annoncé dès le début, c'est que le film ne cherche pas à rendre beau les actions de cet homme. Tout ça est servi par un casting plutôt passable, voire honnête, on va dire. À part peut-être Romain Duris, qui fait une petite apparition en espèce d'Italo-gitan.
Il a des poils et la gomina.
Oui, mais puis il a une casquette. Il est à mi-chemin entre un clochard dans la rue et Kenji Girac.
Donc à mi-chemin d'un clochard dans la rue.
Voilà. Et du coup, il joue un accent italien bizarre en anglais.
En plus, c'est internationalement connu que les Français sont super bons en accent. C'est connu.
Et bon en anglais.
Le pauvre s'en sort quand même pas si mal. Enfin, j'ai pas envie d'être méchant avec lui, parce que c'est pas un rôle, c'est pas un cadeau. Il devient l'ami. Il y a l'espèce de syndrome de Stockholm qui s'installe entre le ravisseur et le kidnappé. Qui crée une histoire en plus dans toutes ces histoires. On va suivre à la fois l'histoire du kidnappé, à la fois l'histoire de sa mère qui cherche à tout prix à faire payer son grand-père. Rien de bien fascinant à l'horizon.
J'ai l'impression que c'est un film tristement passable.
Ouais, c'est ça, et ce qui est dommage, c'est que c'est même pas servi par une mise en scène intéressante. Il y a quelques trucs au début qui installent une espèce d'atmosphère où on se dit « Ah, c'est intéressant !» Notamment un premier plan qui tente des choses que en étalonnage, j'avais pas vu, ou en tout cas pas depuis très longtemps. Il y avait peut-être ça dans L'écume des jours de Gondry, un espèce de passage du noir et blanc à la couleur, pour faire simple. Et ouais, non. À part voilà, ces quelques tentatives-là des 10 premières minutes, on revient à des trucs hyper classiques que Ridley Scott ne faisait même pas il y a 30 ans, en fait. C'est ça qui est surprenant.
Il est balisé, finalement.
Ouais, je sais pas. Ouais, il est peut-être temps de.
Après,
faire
il, fait
comme
deux, son frère. Il fait deux films, il y en a un troisième. Il y a un autre, il en fait un qui va sortir 2018 là. C'est un peu limite, je viens d'avoir
joué. Oui,
Tony Scott, c'était un peu limite. Ouais. Ça a fait le tour du micro, ça arrivait dans le câble, ça arrivait dans mon casque.
Non, je voulais dire de faire Top Gun.
Très bien rattrapé, je te laisserai là-dessus pour éviter de. Parce que je sens qu'on va s'embourber si on continue. Dernier film des sorties de la semaine, peut-être le moins connu, le moins médiatisé, c'est L'échange des princesses, un film de Marc Duguin, avec Lambert Wilson, Anna Maria Bartolomei, Olivier Gourmet, quand même. L'échange des princesses, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment un échange de princesses?
Tout à fait. En fait, ouais, c'est sur une intrigue monarchique, du coup, avec l'Espagne d'un côté et la France de l'autre, qui, à la suite de la guerre de succession d'Espagne, cherchent à se rabibocher et qui, du coup, bah, vont s'échanger une princesse contre une autre pour marier l'héritier des trônes respectifs. Du coup, c'est ça l'objet du film. Alors, c'est un film qui est très orienté sur ce que vivent les personnages et ce que vivent donc les deux princesses qui sont échangées. Donc, comment elles ressentent et comment elles vivent l'acculturation dans le pays de l'autre, et comment bah, la cour accepte plus ou moins leur arrivée, encore une fois, dans les cours respectives.
À l'image, du coup, ça donne quoi?
Du chant contre chant. du chant contre chant, aucun
montage
décor.
Alterné.
Aucun décor. On voit très très peu de décors, donc ce qui est dommage pour un film du début du XVIIIe siècle. On
c'est
quelque
chose qu'on sait faire en plus.
C'est un film qui est censé se passer une moitié à Versailles, une moitié à Madrid, donc on s'attend à voir Versailles. Je sais pas du tout où ils ont tourné. Enfin, il n'y a vraiment aucun plan d'extérieur de Versailles, c'est que de l'intérieur. Ouais, et les quelques plans extérieurs, c'est de la forêt. Alors du coup, je me suis dit, il y a peut-être un problème de moyens. Parce qu'il fallait faire un film qui se passe au XVIIIe siècle. Bon, bah la forêt, ça a pas l'air d'avoir trop bougé. On n'a qu'à tourner dans la forêt. Et du coup, voilà. Bon, la seule chose, c'est qu'il y a les traces des voitures, mais bon, ça passe à peu près.
Peut-être on verra pas.
Peut-être on verra pas, mais bon.
C'est les traces de chariots.
Ouais, de gros chariots avec des gros pneus.
Chariots continentales.
Bon, en tout cas, du coup, c'est vraiment des champs contre champs. Et en fait, en soi, ça c'est pas un problème parce que, enfin. En soi, c'est pas un problème, mais pour moi, ça amène un problème du fait que, bah, du coup, on n'explique pas du tout le mode de vie, les habitudes des gens de l'époque. Ce qui fait que dès qu'ils font quelque chose à l'écran, c'est rigolo et les gens rigolent. Ah oui, forcément, quand on met pas, on n'explique pas et qu'il y a une noble qui d'un coup bah, lève la main et qu'on lui apporte son siège pour qu'elle fasse caca et qu'elle fait caca alors qu'elle est à table et qu'il y a des gens autour d'elle et qu'il y a des courtisans, bah ouais, ça fait rire les gens parce qu'en fait c'est pas du tout mis en avant, c'est pas du tout introduit, et il y a plein de fois où les gens ont rigolé sur des scènes qui paraissent étranges, sur des réflexions bah, qui aujourd'hui nous paraissent complètement anachroniques, mais si c'était bien présenté à l'époque, ça paraît très compréhensible et c'est pas censé faire rigoler. Donc il y a ça, du coup, les modes de vie qui sont pas présentés, et il y a aussi surtout l'intrigue en fait. C'est l'intrigue de base qui est censée être bah, d'expliquer un conflit historique, des puissances qui s'opposent, des logiques économiques, politiques qui s'opposent. Et là, bah, du coup, c'est absolument pas présenté parce que le sujet, c'est les personnages. Et du coup, en fait, il y a une sorte de culte un peu, même si certes, on essaye de voir leurs sentiments, le fait que ah bah c'est difficile de passer de la cour d'Espagne à la cour de France comme ça. C'est un peu difficile, c'est un peu des âmes sensibles. Ouais. C'est un peu des âmes sensibles, mais du coup, ce qui fait qu'on parle que des personnages dépuissants et jamais à un autre moment, il y a des gens, enfin aucun personnage non noble, par exemple, ne parle dans le film.
D'accord.
Il y a à part des nobles qui parlent et qui donnent leurs sentiments de ah je suis dans mon âme, je suis blessé, etc. Et du coup, ça c'est un peu problématique.
Pas le temps pour les roturiers donc.
Pour revenir sur cette partie gaguesque dont tu parlais, est-ce que t'as l'impression que c'est maîtrisé?
Absolument pas, bien sûr que non.
D'accord, c'est.
Pour moi, c'est absolument pas l'objectif. Et c'est ça le problème, c'est que les gens se ont pouffé de rire à plein de moments, alors que c'est des moments qui sont censés soit être graves, soit mettre en situation les personnages. Mais... Et c'est absolument pas l'objectif, et c'est ça qui est vraiment gênant.
Donc, quand même, le film évite l'écueil de dire la reine, enfin la princesse française arrive en Espagne et elle mange des tapas, l'autre mange des croissants.
Non, ça c'est pas. Bah en fait, le problème, c'est pas véritablement un problème, c'est qu'en fait la cour d'Espagne c'est des héritiers de Louis XIV et coup en fait c'est les petits-fils, donc en fait les deux côtés ils parlent français dans la vraie condition historique et du coup il n'y a pas ce problème de langue notamment qui se passe, il y a et même de la culturation parce qu'en fait c'est les mêmes, c'est les mêmes personnes, d'accord, en fait c'est la même famille, hein. Ils sont tous
c'est la maison de vacances quoi,
voilà, ils sont cousins cousines chacun, donc ils se connaissent tous et ils parlent tous la même langue, et même si c'est pas les mêmes cours ça reste les mêmes, la même famille.
Ça invite d'avoir ça évite d'avoir invité Sergi Lopez ou Gael García Bernal pour
ouais voilà non, non t'as pas ça, c'est vrai que ça, c'est un avantage, c'est mais du coup peut-être pour finir le problème c'est qu'en fait ça fait, enfin c'est presque triste à dire mais ça fait vraiment un épisode de Secret d'Histoire où en fait on te montre pas du tout en avant bah, qu'est-ce que c'est véritablement l'histoire, en fait ça présente pas l'histoire avec un grand H, enfin la science ça présente la vie précise de, des sentiments de nobles du XVIIIe siècle sans expliquer pourquoi ils pensent ça, pourquoi ils vivent ça et qu'est-ce que ça influe sur le reste de la cour, sur le reste... enfin c'est vraiment, c'est vraiment tout l'inverse de ce que l'histoire doit être et en fait tout simplement.
Du coup, ça n'a même pas les bénéfices de Secret d'Histoire. En fait.
Oui, enfin, c'est des informations très factuelles, mais si tu veux comprendre l'histoire de pourquoi c'en est là, et voilà, ça, c'est nul. C'est une sorte de culte de la personnalisation et des nobles de cette époque-là, mais il n'y a rien à en tirer, enfin, vraiment rien.
Bah, triste destin funeste pour l'échange des princesses. Petit récapitulatif, donc, des sorties. A Ghost Story, moi je mets un grand oui, en plus il n'y a pas beaucoup d'entrées, je crois qu'il est à 17 000 en première semaine, donc poussez un peu.
C'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. C'est mérité pour Laurent, Florian, Quentin,
non, mais d'accord. C'est même pas mérité.
Non, c'est pas mérité. Pas
Allez voir.
Ouais, allez voir. Faites-vous un avis et puis...
Nam, Jumanji.
Le dimanche soir en VOD. Non, pas en VOD, en téléchargement totalement illégal dans 6 mois.
Parce que dimanche soir c'est le 31 quand même, donc faut.
Pour le coup, c'est vraiment un film du dimanche soir, tu vois. T'as envie de te déconnecter totalement, tu mets ça.
À dans 3 ans avec TF1. Wonder, je mets un grand nom, ça mérite pas le cinéma, pas du tout. Florida Project, je mets un grand oui, parce que c'est intéressant.
Ça reste intéressant.
Ouais, c'est dans le contexte, en plus, voilà, c'est bien. Bright, est-ce qu'il faut sortir pour aller au cinéma? Non.
Bah non, mais de toute façon, si vous avez Netflix, a priori, vous allez le regarder dans tous les cas. Donc,
Franchement, même pas, parce que...
Ah ouais.
Non, encouragez pas ça, honnêtement.
Ça fera un nanar ou pas?
Même pas.
Ok,
même
non,
pas.
On donnerait au moins 12 centimes par visionnage à David d'ailleurs.
Ça ne pas un nanar.
Non, regardez Netflix, mais regardez pas ça.
Bon, de toute façon, il va être sur votre page d'accueil Netflix pendant 8 mois. Donc, genre, tu vas regarder un drame tchéco-slovaque et tu vas voir juste après, tu sais, genre. Et ça cible.
Non, non, mais surtout, vous sur Netflix, ils font en ce moment, c'est. T'allumes Netflix, tu tapes la bande-annonce dès que l'ouverture.
C'est vrai, ça c'est vrai, j'irai pas.
Mais c'est pareil au cinéma, hein. Pareil, cinéma, bim, t'as la bonne annonce.
Non, mais oui.
Moralité, on peut pas s'échapper de la pub. Tout l'argent du monde. Est-ce que t'irais, même pour tout l'argent du monde?
Ouais, pour tout l'argent du monde, j'irais, mais si, il peut y avoir, même si voilà, j'ai pas trouvé un attrait particulier à ce film, il peut y avoir des choses. Mais c'est quand même globalement moyen, quoi.
L'échange des princesses.
Non, n'y allez pas. Si vous voulez des vrais historiens, demandez-moi, je vous répondrai. Hein. Un message privé si vous voulez.
Ouais, on dirait qu'il rigole mais il rigole pas.
Il est aussi sur les réseaux sociaux.
Exactement.
Et tout ça pour venir, juste pour finir sur la pub, je sais pas si tu me le permets.
Je t'en prie.
À Bordeaux ils ont mis des. Tu dis on peut pas échapper à la pub, à Bordeaux ils sont même mis à mettre des pubs sur les trottoirs. Donc voilà.
D'accord.
Je trouve ça absolument incroyable. Donc
ah ouais.
J'en fais participer.
Incroyable. On va passer au quiz de la semaine où on va tenter de se détendre un tout petit peu. C'est donc parti pour le quiz de la semaine. Le bête change, la petite musique derrière change. Je sais pas si vous avez remarqué. Moi j'ai remarqué, je trouve ça très joli.
Pas mal.
Laurent, qu'est-ce qu'on va faire?
Alors, il me semblait qu'en cette fin d'année, les femmes du cinéma avaient été mises un peu en avant de la scène, un peu à leur insu. Donc je trouvais ça intéressant pour cette fin d'année d'essayer de les mettre à leur honneur et d'essayer d'en parler un peu. Donc on va pas parler d'actrices là, mais seulement de réalisatrices. Donc je vais vous donner en fait des bios, tout simplement, de réalisatrices. Que j'ai un plus ou moins tourné pour que ça soit pas forcément très évident, et vous allez devoir trouver quelle réalisatrice il s'agit, donc de répondre au plus vite quelle réalisatrice il est le cas. Si vous répondez faux, sachez que l'équipe adverse prend un point, parce que sinon c'est trop simple, vous donnez les 6 que vous avez.
Okay. Donc, on les laisse répondre.
C'est aussi simple que thématique. Je vous propose deux équipes, donc moi-même, Robin et Quentin, contre Maxime, Nam et Florian. Tout le monde est bon?
Vamos.
Allez, vamos.
Donc la première, elle est née en 83. Elle a fait Hippocagne-Cagne au lycée Henri IV. Et puis ensuite, elle a été diplômée d'une double licence lettres modernes anglais. Je sais pas si vous avez eu une idée pour l'instant. Et ben voilà, c'était tout à fait ça.
Je, J'osais pas y aller à cause de cette sanction.
J'allais
de
dire
merde.
Mélanie Laurent.
Ouais, mais il faut prendre le risque si vous êtes sûr. Donc c'est ça. Ensuite, elle a fait la Fémis, pour dire qu'après, elle a fait la Fémis. Donc elle a eu quand même une formation cinéma. Et ensuite, elle a fait un téléfilm sur Canal+ en 2012. Je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Mange. Ah bah et qui était un film sur un peu sur les mêmes thèmes que Grave, justement, c'était sur la vengeance.
Un long métrage ou un court métrage?
C'était un long métrage. Okay. Et c'était sur le malaise aussi, un peu sur les mêmes thèmes. Et du coup, ensuite,
elle a fait un court métrage avec Garance Marillier avant Grave.
Et ensuite, du coup, elle a eu en 2017 et sorti.
Alors, j'ai pas dit ça au hasard, mais parce que quand elle dit qu'elle a fait une licence d'anglais, j'avais déjà entendu d'elle des interviews en anglais et elle parle super bien. Donc, je me suis dit peut-être que ça a joué.
Peut-être que c'est elle. Donc ça fait un point pour l'équipe de Quentin et Robin. Êtes-vous prêts pour la suivante? Yes. Donc elle est un peu plus vieille, elle est née en 51. Et c'est une femme qui a réalisé près d'une dizaine de films tout au long de sa carrière. Elle a connu un premier succès avec un film sorti au début des années 90 qui était nommé au Québec Extrême Limite. Ouais.
Point Break.
Ouais, Extrême Limite. Et du coup, ensuite j'ai mis que du coup, dans les années 90, un peu moins de succès, puis un retour à les années 2000 avec un film sorti en 2009. Il y a eu 6 Oscars.
Ouais, d'accord, que c'est l'extrême de James Cameron.
Entre 89 et 91, je suis renseigné du coup. Ouais. J'ai lu sa bio en entier.
Et puis elle a réalisé tout simplement Détroit il n'y a pas si longtemps. Vous pouvez écouter notre critique sur mixcloud.com/la3ème rangée.
Donc ça fait un partout pour nos équipes. Du coup, la suivante, bah, c'est une femme qui, d'après sa page Wikipédia, parle quand même 6 langues. Dont le français. Et elle a connu un grand succès critique pour ses premières œuvres non filmiques avant de se lancer dans la réalisation. Et ses deux premiers films sont des adaptations d'œuvres qu'elle avait écrites auparavant.
Marjane Satrapi.
Tout à fait.
Ah, merde.
C'est bien ça.
Bien joué.
Et il a été annoncé d'ailleurs en mai 2017 qu'elle sera à la tête d'un biopic sur Marie Curie, je sais pas si vous savez.
Okay. Ah ouais.
Ouais, avec Rosamund Pike.
Incroyable.
Je suis chaud.
Et ça s'appellera Radioactive.
Super, j'espère qu'il y aura du Kraftwerk.
Donc voilà, bien joué, ça fait du 2-1 toujours pour Quentin et Robin qui sont en tête. Donc la prochaine réalisatrice, c'est une réalisatrice qui a d'abord fait des formations d'anthropologie avant de se tourner vers des études de cinéma seulement à 30 ans. Et dès un de ses premiers courts-métrages, a été récompensée par la Palme d'Or du meilleur court-métrage. Et c'est d'ailleurs la première femme à recevoir la Palme d'Or du meilleur court-métrage quand elle l'a eu, donc en 86.
Agnès Varda. Non. 86. Attends, si
j'avais continue voir si on trouve.
Alors du coup, ensuite, elle a eu, 7 ans plus tard, elle est aussi la première femme à avoir une Palme d'Or, mais cette fois-ci pour un long-métrage en 93. Et c'est la seule femme qui a eu une Palme d'Or pour un film.
Sorti
en 93. Quoi ?
Claire Denis ?
Non.
Nationalité.
Si, ils sont ratés aussi, c'est-à-dire que le point revient à nous ou pas?
Non, c'est perdu pour vous.
Jane Campion.
C'est ça, ouais, c'est Jane Campion.
Ah, mais ouais.
Du coup, elle a eu le Palme d'Or du meilleur court-métrage et Palme d'Or du long court-métrage. C'est la seule. Enfin, court-métrage, il y a eu des femmes après, mais pour le long métrage. Ouais, c'est ça.
Elle a fait. Il me semble que c'est encore dispo Top of the Lake saison 2 sur Arte en ce moment.
Ouais.
Donc, ça fait 3-1.
Oh là là, c'est un jeu.
3-1, 3-1.
Merci Florian. N'hésite pas.
Donc notre prochaine femme, on parle beaucoup d'études, hein, vous m'excuserez, parce que c'est ce qui arrive en premier en fait sur les pages Wikipédia. Du coup, c'est une femme qui d'abord a fait des études d'architecture avant de s'orienter vers une carrière de comédienne. Et visiblement, elle a beaucoup douté de sa carrière de comédienne jusqu'à rencontrer son compagnon avec lequel elle a écrit les 4 de ses films et qui du coup l'a encouragée. Décidément, Maxime, vous coûtera cher.
Attends, c'est tout. Moi, j'ai peut-être une idée.
Vas-y.
Julie Delpy.
Non, c'est pas ça.
Celle avec Bakri, là.
Ah, Nejaoui.
Non plus. C'est dommage, j'ai hésité à les mettre, mais elles ne sont pas là. Et du coup, son second film, qui est sorti en 2011, a été plébiscité par la critique et qui raconte notamment une histoire qu'elle a vécue du coup avec ce mari avec lequel elle écrit.
C'est le film où leur enfant a eu un.
Une tumeur au cerveau.
C'est ça.
Avec Sergio Lopez.
Tout se recoupe.
Valérie Donzelli.
Non, c'est pas celui-là.
Ouais, c'est Valérie Donzelli.
Ah oui, non, c'est l'autre. Je comprends. Ah.
Et du coup,
le combat.
La guerre est déclarée.
C'est à peu près pareil. Oh, ça va.
C'est un peu la même idée. Mais je suis sûr que Max était pas loin et il l'avait pas très loin, non ?
Merci Maxime pour le point.
J'ai
4-1. Bon, il m'en reste une dernière. Donc, cette dernière réalisatrice a d'abord une carrière d'actrice dans les années 70, 80 et 90. Et je sais pas si vous savez, mais elle était créditée sous le nom de Domino dans ces films-là.
Genre, il y avait marqué Domino.
Il y avait écrit Domino.
D'accord.
Donc, pizza.
Moyen, très moyen.
On a déjà perdu, on a faim.
Et du coup, l'un de ses derniers rôles à l'écran, c'est un rôle dans l'épisode 1, où a joué une des suivantes de la reine Amidala.
Oh, ça me dit un truc, cette anecdote.
Et du coup, l'année 99, du coup, la sortie de la menace fantôme, c'est également l'année de son premier film, qui a été un grand succès critique. Et tous ses films, d'ailleurs, depuis ce premier film en 99, sont souvent très attendus par la critique.
Je me revois sur IMDb en train de dire, mais attends, elle joue dans Star Wars, cliquez, faire, ah mais c'est une cerveau.
Alors, dernier indice, le aussi, titre québécois de son premier film de 99 est Cri Ultime. Je sais pas si vous avez une idée.
Cri Ultime.
Ouais. Vous avez pas.
C'est terrible.
Ah, quel enfer, j'en sais rien.
Agnès Varda.
c'était pour la vanne.
Ça serait énorme que ce soit dans le Star Wars.
J'ai même pas envie de donner d'autres indices, quoi.
Bah non, mais y a pas de.
Vous avez pas une réalisation.
Non, on a pas l'avoir. Hein.
Cri Ultime.
Cri Ultime.
Ouais, attends, en 99.
En québécois, donc c'est Cri Ultime. J'étais en train de voir.
La traduction, ouais, moi aussi je l'ai pas.
C'est pas genre Primal Scream.
Primal Scream, ouais, ce que j'allais dire, mais non.
Malheureusement, ce n'est pas ça.
Allez, le titre anglais.
Je peux pas le dire, c'est trop évident. Ouais, c'est
le jeu est déjà plié.
Ouais, le jeu est déjà plié.
Au pire, on sera juste
99. Et ensuite, elle a fait. Du coup, elle a. Bref, je sais pas quoi dire, quoi. C'est compliqué.
Go.
C'était Sofia Coppola.
Ah, mais.
Oh, mais quel enfer. D'accord, et elle est créditée sous le nom Domino, je savais.
Non, ouais, parce qu'en fait, elle a joué du coup pas mal dans les films de son père, et son père ne mettait pas son nom sûrement pour pas qu'elle passe pour une fille pistonnée, et du coup, a été créditée Domino sous le nom de. Et elle a fait presque 15, enfin une quinzaine de films, alors quand c'est pas son père, c'est soit c'est des gens de la famille, soit du coup, là, l'épisode 1, c'est fait par George Lucas, qui est un grand pote de Francis Ford Coppola, ce qui explique du coup sa présence dans le film, et c'est son avant-dernier film, et après, elle n'a plus du tout fait.
D'accord.
Et du coup, après, c'est complètement consacré à la réalisation.
Et alors, Cri Ultime, c'est quoi, du coup, le film ?
Virgin Suicide.
Incroyable.
Ouais. D'accord.
Cri Ultime, c'est Virgin Suicide.
Mais comment ils ont traduit ça ?
Ah ouais,
genre...
Pourtant, ils sont vraiment littéraires quand il faut pas. Ouais. Enfin, littéral, pardon.
J'avais fait un quiz, d'ailleurs, titre québécois.
C'est vrai, il faudra le refaire. Il faudra le refaire. Bah, de toute façon, bon, c'est moi qui vais présenter le prochain quiz, puisque... En gagnant le quiz, je gagne le droit de vous donner le coup de projo pour 2018. Ce sera notre premier coup de projo. Ce sera un film italien de 1970 qui s'appelle Enquête sur un citoyen de au-dessus de tout soupçon, réalisé par Elio Petri, que j'ai lancé parce que je trouvais le titre beaucoup trop cool. Et non seulement le titre est beaucoup trop cool, mais le pitch est beaucoup trop cool aussi. C'est un inspecteur de police qui s'ennuie un petit peu, donc qui va commettre un crime et qui va s'amuser à mettre tout le monde sur sa piste. Et puis, il va accélérer quand les gens sont un petit peu trop près, et il va freiner quand les gens sont un petit peu trop loin. Et il va s'amuser avec ça. Ça fait partie d'un triptyque, c'est avec l'excellentissime Gian Maria Volonté, que vous avez forcément vu dans Le Bon, la Brute et Le Truand. C'est évidemment La Brute. C'est du charisme pur, et ça se rapproche un petit peu de ce que faisait dans le même temps Sidney Lumet. Voilà. Je vous ai déjà conseillé des films, ça reste dans la thématique. Et bien voilà, ça fait une émission en plus, la dernière de 2017. On se quitte avec pas grand chose d'autre, sinon que on va tourner dans quelques instants le top et les flops. Donc ça va sortir en même temps et on va vous révéler les meilleurs films et les pires films de 2017, année civile. J'espère que vous êtes prêts. On a faim, on mange un petit peu. Oui, et puis on revient.
Donc encore plus de la troisième rangée.
Encore plus, toujours plus. A plus, et j'ai envie de dire à tout de suite si vous lancez juste derrière, et au revoir si vous lancez un autre jour, parce que c'est important.
A tout de suite, au revoir.
Plus.
Bien vu.